le protestantisme en Afrique de l'Ouest, l'Église méthodiste unie de la Côte d'Ivoire. Docteur Daniel Aoui est le directeur général de l'hôpital méthodiste de Dabou, en Côte d'Ivoire, qui fête son jubilé en novembre 2018. L'hôpital méthodiste a été le fer de lance de la santé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le docteur Daniel Aoui a des défis financiers à relever. Face à la baisse des subventions, l'hôpital a en effet besoin de moyens complémentaires pour remplacer un matériel parfois désuet ou encore moderniser des services. Un service de gériatrie est notamment à l'étude. Le docteur Daniel Aoui souhaite aussi travailler en réseau, notamment avec les sages-femmes. Son rêve ? Faire évoluer cet hôpital méthodiste de Dabou vers un CHU.
Le cinquantenaire, c'est d'abord le jubilé. Quand on regarde dans la Bible, le jubilé, c'est une période à partir de laquelle on remet certainement toutes les dettes, les esclaves deviennent libres, ainsi de suite. Donc c'est un temps important dans la vie, qui a été un temps important dans la vie de la nation d'Israël, qui est un élément aussi important dans la vie de nous les chrétiens. Même dans toutes les communautés, après 50 ans, on pense que c'est l'âge d'or et qu'il faut fêter. Donc 50 années dans la vie de l'hôpital, c'est un moment important et crucial qui doit nous permettre de faire un bilan et puis de voir les perspectives. Mais c'est aussi un moment d'action de grâce, et surtout. Action de grâce à Dieu pour dire « Dieu merci de nous avoir vraiment gardé, malgré les péripéties, malgré les défis énormes, les tempêtes. Dieu, au travers, j'allais dire des âges, si je peux dire des âges ainsi, au travers des années, a gardé mes prédécesseurs jusqu'à moi et gardé la structure. Donc c'est pour nous une occasion de lui dire merci Seigneur.
Alors justement, vous parliez de péripéties pendant ces 50 ans. Comment est-ce qu'on pourrait identifier ces différentes étapes jusqu'à aujourd'hui?
Bon, l'hôpital a une histoire. L'hôpital a été inauguré depuis le 28 octobre 1968 par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny. C'est un hôpital qui a émerveillé toute la Côte d'Ivoire et même la sous-région, animée par des missionnaires avec un plateau technique de pointe. Et les gens étaient reçus, traités gratuitement ici.
Dès le départ, ça a été un modèle d'établissement.
Un modèle, un grand modèle d'établissement. Et bon, vraiment qui faisait beaucoup d'activités, des activités curatives, mais aussi des activités préventives. Et l'hôpital assurait le relais pratiquement de ce que l'État ne pouvait pas faire. Les vaccinations contre les maladies à potentiel épidémique, la lutte contre les endémies. En tout cas animer la plupart des programmes du ministère de la Santé de l'État de Côte d'Ivoire dans la région de Dabou, dans beaucoup de villages dans Côte d'Ivoire.
Il faisait preuve finalement d'innovation, de fer de lance pour la santé du pays.
Vraiment, c'était le fer de lance de la santé du pays, comme vous le dites, c'est juste de le dire, c'était vraiment le fer de lance de la santé du pays. Bon, mais au niveau, en matière de gestion, c'était géré aussi par des expatriés, des Anglais, mais qui bénéficiaient de beaucoup de fonds. Les médicaments l'hôpital était soutenu par l'Église d'Angleterre. L'État de Côte d'Ivoire apportait une subvention vraiment importante. Et cela a permis de soigner gratuitement. Et de prendre en charge vraiment beaucoup de pathologies. On disait ici même que si vous n'avez pas l'argent, venez, on vous soigne, après vous partez chercher l'argent pour venir payer. Et ça a évolué.
Est-ce que ça veut dire aussi que la fréquentation de l'hôpital a évolué d'année en année?
La fréquentation de l'hôpital a évolué depuis, c'est pour ça que je cherchais un peu l'image, la photo, parce qu'on a retrouvé des premières images depuis la mobilisation de fonds en Angleterre par la jeunesse protestante. La jeunesse protestante d'Angleterre en son 21e anniversaire avait mobilisé tous ses fonds pour, et ici en Côte d'Ivoire on a aussi des images de la mobilisation de la jeunesse méthodiste dans toutes les églises, dans toutes les communautés méthodistes du pays. Ils avaient envoyé des représentants qui étaient programmés, qui venaient servir de main d'œuvre pour aider à bâtir ces édifices que vous voyez. Donc, c'est vraiment l'association des fonds qui sont venus d'Angleterre, de l'Église et d'autres partenaires, et l'appui, l'engagement de l'Église ici en Côte d'Ivoire qui a fait naître ce que vous voyez, qui dure depuis 50 ans. Oui. Bon, les premiers services, c'était essentiellement la médecine générale qui regroupait et la médecine interne et la pédiatrie, et c'était regroupé, et puis la chirurgie qui englobait et la chirurgie générale, tout ce qui est mère-enfant aussi, à savoir les accouchements, les césariennes, tout cela se faisait, mais ça c'est venu par la suite, mais c'était surtout la chirurgie générale et la médecine, vous voyez, la médecine des grands et la médecine des enfants. Avec le temps, cela a un peu évolué. Nous sommes aujourd'hui, les services sont un peu compartimentés. On a le service de pédiatrie à part, avec un bloc néonatal qui fait du bon travail, parce que même les CHU, qui sont parfois en réflexion, qui ferment leur bloc néonatal, nous refait tous les nouveau-nés, les prématurés. On fait l'élevage des prématurés ici. Je pense que on a pu rattraper un nouveau-né de 700 grammes. 700 grammes ici. 700 grammes qui étaient nés avec 700 grammes qu'on a pu récupérer ici. Donc, on travaille. Il y a la pédiatrie, je le disais. C'est surtout l'aspect néonat que je viens d'en parler. Mais il y a aussi l'aspect grand-enfant. Et à l'externe, c'est la vaccination, c'est la consultation curative, c'est l'appui nutritionnel qu'on apporte aux parents, ainsi de suite, l'éducation, la lutte contre le paludisme, la prise en charge en matière de programmes. Je parlerai des programmes à part. Et donc, la pédiatrie, en dehors de la pédiatrie, il y a la médecine interne. Et on fait vraiment de la médecine interne et puis de maladies infectieuses aussi. En parlant de maladies infectieuses, je parlerai du VIH-Sida, de la tuberculose quand je vais parler du programme. Donc, on s'occupe de toutes les pathologies médicales. L'hépato-gastro-entérologie se fait en vacation avec un spécialiste, un universitaire même du CHU de Yopougon. À part la médecine interne, il y a la chirurgie qui est séparée de la gynéco-obstétrique. On a des gynécologues aussi qui s'occupent du couple mère-enfant, la femme pendant la grossesse, en dehors des grossesses, donc l'obstétrique et puis la gynécologie pure qui se fait aussi, les CPN, le planning familial. Bon, tout cela est pratiqué chez nous ici. Quel autre service? Il y a des nouveaux services qui font leur apparition, tels que la cardiologie. Nous avons une cardiologue résidente avec l'ECG, l'échographie cardiaque, les Holter, ECG, Holter tension. Nous le pratiquons ici. En dehors de la cardiologie, il y a l'hémodialyse, disons la néphro avec l'appui de la CEVA, surtout l'échographie cardiaque, et la CEVA nous a appuyé aussi au niveau de l'échographie cardiaque. Mais il y a la néphrologie, on fait des consultations de néphro avec des dialyses, on a des malades qui sont actuellement en dialyse. En dehors de la dialyse, il y a aussi des consultations de rhumatologie. La médecine de plus en plus de vieillesse, mais la jeunesse aussi. Les adultes qui ne sont pas aussi vieux comment aussi être des pensionnaires de ces services. Il y a un cabinet dentaire. On a un cabinet dentaire. On a des services des services médico-techniques tels que la radiologie, le laboratoire, la pharmacie.
Est-ce qu'il reste des services que vous voudriez ouvrir?
Oui, on est en train de s'apprêter pour ouvrir sur la dermato. Voilà, on est déjà en échange avec un dermatologue. On est en train d'étudier les mesures pratiques d'ouvrir ce service. Mais il faut qu'on pense aussi à l'avenir, comment ouvrir une gériatrie, pourquoi pas une médecine des vieilles personnes, la gériatrie, il faut qu'on y pense. Mais aussi, comment développer davantage la médecine du couple mère-enfant. C'est vrai que c'est fait, mais comment renforcer quand je parle de renforcer la prise en charge du couple mère-enfant, on veut parler en termes de travailler un peu plus en réseau avec le réseau sanitaire, la population de décès, le réseau sanitaire ici, l'hôpital général, les dispensaires, les maternités dans les villages. On avait commencé un projet qui a pris un peu du plomb dans l'aile, qu'on veut ressusciter, on veut reprendre, à savoir être en collaboration, être en réseau avec les sages-femmes, de sorte que quand déjà il y a des grossesses à risque, on puisse déjà les recevoir et puis faire des programmations de césarienne à froid pour éviter la mortalité maternelle, les décès liés à l'accouchement.
Alors là, 50 ans viennent de s'écouler. Comment est-ce que vous voyez les 50 ans à venir?
Bon, les 50 ans viennent de couler et qui montrent déjà qu'on est passé d'un hôpital de premier contact, d'un hôpital leader, avec un réseau sanitaire qui était très étroit. On se trouve avec un réseau sanitaire très développé, avec même des structures cliniques. Est-ce qu'on peut parler de concurrence? Non, pour nous, c'est une question de on est partenaires, on se complète, on est complémentaires.
Ouais.
Voilà, parce qu'il n'y a pas de malades privés, malades publics, malades confessionnels. On travaille tous pour la santé. Et donc, chacun essaie de prendre une partie qui peut exercer afin d'améliorer la santé de la population.
Bien sûr.
Donc, il n'y a vraiment pas de continuité. Mais comment continuer à travailler? Il faut pouvoir développer une médecine qui nous permette de financer le social. Parce que nous sommes restés à un niveau social qui fait que l'hôpital n'arrive pas à recouvrer la structure des charges, c'est-à-dire que les recettes d'exploitation n'arrive pas à couvrir les charges d'exploitation, parce qu'on ne peut pas pratiquer des prix qui nous permettent de couvrir tout cela. Et le passé aussi, nous avons un passé, c'est vrai, un passé glorieux en matière d'expertise, de prestation de soins, mais en matière de finances, de charges, il y a vraiment une dette lourde, une dette sociale. Faut qu'on repense en matière de gestion, comment augmenter les recettes. Comment augmenter les recettes pour pouvoir couvrir un peu la structure des charges, pour couvrir les charges. On sait qu'on a besoin vraiment, on bénéficie d'appui qui n'arrive pas toujours, mais ce sont des appuis qui sont de plus en plus importants, qui nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup d'espoir. Voir le DBGM, le DBA General Board of General Ministry, Global Health, qui nous aide, parce que 50 années après, beaucoup de choses sont à reprendre. C'est un joyau, mais qui croupit sous le poids de l'âge. C'est des installations électriques qui durent depuis 50 ans et qui créent des courts-circuits qui endommagent notre appareil de production. Il faut reprendre les bâtiments, j'appelle au niveau des infrastructures, c'est-à-dire que les infrastructures électriques, les infrastructures au niveau de l'eau, la distribution d'eau, on n'arrive pas à avoir vraiment le niveau d'eau qu'on souhaiterait, parce qu'on fait de la dialyse, on a une stérilisation, un autoclave qui a besoin de consommer beaucoup d'eau, et même les services. Vous savez, en milieu hospitalier, l'eau est le béaba de l'hygiène. Si vous n'avez pas de l'eau, vous ne pouvez pas parler d'hygiène. Donc, il faut que l'eau, on ait une adduction d'eau qui soit régulière, pas interrompue, parce qu'on n'arrive plus à nous alimenter comme on nous alimentait avant. Des quartiers alentour de l'hôpital se sont développés et on n'a pas augmenté le niveau de distribution d'eau. C'est la même quantité d'eau qui est distribuée. Donc, notre niveau de distribution baisse et ça rend difficile un peu la gestion de l'hygiène, la gestion même de certains services qui consomment énormément d'eau. En dehors des infrastructures électriques et puis de l'eau, il y a les bâtiments. Et j'allais parler du circuit d'accueil. Hier, les gens venaient attrouper, mis sur des bancs, ceci, cela. Aujourd'hui, c'est un peu obsolète, c'est dépassé. Il faut pouvoir mettre je le dis, dans tous les services, on attend. On attend, mais comment se fait l'attente? Comment se fait l'attente? Il faut améliorer l'attente.
L'attente du patient.
L'attente du patient.
Ouais.
Et le patient qui attend d'être reçu, il faut qu'il soit assis dans un cadre assez agréable, qu'on soit capable de commencer déjà à l'éduquer sur sa santé, parce qu'il ne s'agit pas de soigner seulement, Si on veut contribuer à l'amélioration de la santé de la population, nous devons aussi travailler dans le préventif. Dans le préventif. Donc, pouvoir éduquer la personne qui vient pour un problème de santé, comment demain éviter la maladie et ainsi de suite. On pense qu'en le faisant, on pourrait contribuer à améliorer de façon décisive la santé de la population. Donc, tout ce truc, quand on regarde aussi, même les blocs sanitaires, les salles d'eau ont pris un coup. C'est difficile. Donc, il faut qu'on reprenne rapidement les blocs sanitaires des malades qui sont hospitalisés. Ils nous disent, ah, vous soignez bien ici, mais quand on va à la salle, c'est compliqué pour nous. Vous voyez, et ils ont raison. Et quand on visite ces blocs sanitaires, on se dit, il faut faire quelque chose rapidement. Parce que la santé, ce n'est pas seulement les médicaments qu'on administre, c'est aussi un environnement. C'est aussi un environnement.
Alors, faire le jubilé d'un hôpital, est-ce que c'est aussi l'occasion de faire une campagne de dons? Parce que j'entends que là, au niveau médical, finalement, ça fonctionne très bien. Oui. Et que c'est plutôt d'argent dont vous avez besoin pour l'environnement de cet hôpital, autour de la médecine.
Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un cinquantenaire d'action de grâce. C'est un cinquantenaire de bilan, de perspective, c'est un cinquantenaire. Et ce n'est pas un cinquantenaire seulement festif, mais c'est un cinquantenaire pour appeler à mobiliser l'Église autour de sa structure, mobiliser nos partenaires, leur dire ce dont nous avons besoin, nos problèmes, et nos partenaires, et voir comment est-ce que l'appui des uns des autres peut permettre à cette structure de tenir son rang, de maintenir son leadership. J'ai dit, en parlant des services, j'avais dit que j'allais développer les différents programmes. Les programmes, on participe aux programmes du ministère de la Santé, aux différents programmes du ministère de la Santé. Et par exemple, le VIH-SIDA, on est l'une des structures qui a une très forte file active. Et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, de la tuberculose, et d'autres pandémies représentent au moins autour de un tiers de nos activités. Et c'est un tiers de nos activités, c'est fait gratuitement. C'est gratuit. Et comment on recouvre? Comment est-ce que nous, on paye? On paye cela. On sait que l'État, on est reconnaissant vraiment à l'État qui nous appuie. Mais la subvention, vous voyez, ça a considérablement diminué de 200 millions dans le temps. On devait se dire qu'on serait à 500 millions aujourd'hui. Mais je vous assure qu'on n'atteint même pas à 50 millions. Cette année, c'est 16 millions qu'on nous a dit qu'on nous donne. Mais on est reconnaissant que l'État nous envoie aussi du personnel. Bon, il y a du personnel fonctionnaire qui est là. Il y a deux types de personnel. Il y a du personnel privé, du personnel fonctionnaire amené par l'État. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'on augmente notre enveloppe de subventions pour nous permettre de faire face, parce que l'Église, par sa structure, vient aider, je crois, l'État, vient appuyer l'État. Donc, vraiment, notre cri de cœur, c'est que l'État nous entende pour augmenter vraiment notre subvention, pour nous permettre de faire face au traitement de certaines dettes, les dettes sociales, les dettes fiscales, qui ne sont pas loin de 1 milliard. Aujourd'hui, nous sommes presque en ajustement structurel. Il faut signer des échéanciers avec des fournisseurs passés, avec la CNPS, avec les impôts. Et en tout cas, il faut pouvoir faire face à tout cela pour une structure qui arrive à réunir à peine les salaires du personnel à la fin du mois. Et après avoir payé, il faut avoir du temps pour regrouper, pour réunir un peu de fonds, pour faire face à ces échéances que nous avons déjà signées. Cela amène que parfois on arrive à payer le personnel au milieu du mois, parfois 20. Mais on a commencé avec des arriérés énormes que par la grâce de Dieu on a pu éponger, mais la situation reste très 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 fragile. Et il y a une telle tension de trésorerie qui fait que l'investissement est difficile. Et nous sommes aussi reconnaissants à la Fondation Léopi, qui est un partenaire suisse, qui nous accompagne, qui nous permet d'avoir assez de matériel, d'équipement, mais il y a des réhabilitations indispensables à faire. Un rêve pour cet hôpital, moi je rêve de voir une structure ça n'était que parti d'un stade de premier contact devenu un CHU, un centre hospitalier universitaire. Ah. Pourquoi nous devons réfléchir et avoir un plan, un plan d'action qui nous permette de dire, bon, cette année, les années à venir, on met telle structure, tel service, parce qu'on évolue vers un stade de CHU et le centre de formation qui est fermé depuis des années. Pourquoi ne pas travailler à devenir une médecine, une faculté de médecine privée? Il faut le vouloir. Et déjà, penser comment réouvrir pour former des infirmiers et puis penser déjà à travailler pour que ça devienne une faculté de médecine privée. Et j'en ai vu au Burkina. L'Église catholique, le centre Thomas d'Aquin, l'université Thomas d'Aquin a une faculté de médecine. Il y a une université méthodiste. Pourquoi ne pas penser à une faculté de médecine? C'est possible. Il y a des structures qui ont des facultés de médecine qui n'ont pas d'hôpital de ce rang-là. Mais nous, on a déjà un hôpital de ce rang. Pourquoi ne pas y penser? L'extension, oui, il faut. C'est quand je parle d'évoluer vers un CHU, c'est qu'il faut l'extension de l'hôpital. Mais il faut éviter de penser seulement seul ici. Si on a dit hôpital méthodiste de Dabou, il faut penser à hôpital méthodiste peut-être de Daloa, hôpital méthodiste d'Odiéné. Il faut créer un réseau.
Son territoire.
Sur le territoire, ouais. Il faut étendre la toile vers toutes les autres régions du pays et apporter surtout, commencer déjà à avoir des centres de santé dans les structures, dans les districts missionnaires et travailler petit à petit à ce que ça évolue vers ces structures pour être de plus en plus. Parce que vous comprenez, les structures confessionnelles ont un bon témoignage et parce que les gens y travaillent avec un minimum de moralité que la population voit, reconnaît, qui l'amène à nous fréquenter.
Merci.
Émission produite par FM+, 91 FM à Montpellier, en collaboration avec la CEVA, la communauté d'église en mission.